passion?
Eh bien, je pense que je vais devenir fan de la radio du cinéma.
Nathalie, bonjour. Soyez la bienvenue sur la radio du cinéma. Nathalie, en fait, vous pouvez un petit peu vous présenter, nous parler un peu du cinéma québécois.
Troisième long métrage en 20 ans. Et comme je dis à mes amis français, c'est parce que je suis flemmarde. Mais c'est-à-dire, j'aime lire, écrire, prendre mon temps. Le cinéma est ma passion. Comme je disais, avec mon amoureux et moi, on discute davantage à tous les jours quel film allons-nous regarder ce soir plutôt que le menu. Et pourtant, je suis une gourmande. Et donc, c'est ça. Je suis tombée dans la marmite cinéma à l'âge de 20 ans. C'est-à-dire, avant ça, j'aimais le cinéma, comme tous les gens, de ma génération. Dans les années 80, toutes les fins de semaine commençaient par au moins un film. Je dis ça parce que je suis frappée de voir comment la jeunesse va moins au cinéma chez nous. Et c'est ce que j'ai constaté aussi en France. Bref, je crois que j'ai eu la chance de vivre des très grandes émotions en salle. Et des fois, il y a le discours qui dit « Ah non, mais ça, c'est un film intimiste, donc on peut le voir à la maison. » Mais au contraire, parce que souvent, quand on voit le film à la maison, tout à coup, le chat saute sur nous, on arrête pour aller se refaire. Mais bref, le cinéma, Godard le disait, hein, l'image nous domine. Et on ne peut pas arrêter le défilement. Les larmes nous viennent aux yeux. J'ai eu la chance de vivre des très grandes émotions au cinéma. Et avant de commencer, je dirais, à être cinéphile, j'étais donc cinéphage, c'est-à-dire aller au cinéma au moins deux fois par semaine. Mais à 20 ans, en moins de 6 mois, j'ai vu 3 films qui m'ont renversé. Le premier, c'était Le Casanova de Fellini. J'y allais avec toutes sortes d'idées préconçues, on m'y avait invité, je pensais que j'allais voir comme une sorte de biopic un peu coquin sur Casanova, et j'ai été dégoûtée par le film. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça beau, baroque, absurde, mais j'y comprenais rien, et j'étais traumatisée de voir Donald Sutherland, qui avait de l'air sinistre, filmé en contre-plongée. Vraiment, si on m'avait dit, dans près de 40 ans, tu m'as encore parlé de ce film, je disais bon. Mais ça a été une claque parce que j'ai réalisé que ça pouvait être autre chose aussi, le cinéma. Et très peu de temps après, je suis allée voir, mais sans savoir qu'est-ce que j'allais voir. Alors, je suis...
Surprise totale.
Mauvais sang de Léos Carax. J'ai 20 ans, je découvre en 2 heures Juliette Binoche, Denis Lavant. J'étais une fan de Corto Maltese, alors j'ai reconnu Hugo Pratt. Mais c'est aussi pour la première fois de ma vie, c'est pas seulement un récit qui m'a touchée ou des personnages qui m'ont touchée, c'était le langage cinématographique. J'aurais pas été capable de le dire comme ça à cette époque-là, mais tout à coup, un choix de mix, c'est-à-dire... Je revois encore Julie Delpy qui est sur la moto, qui tient Denis Lavant, et tout à coup, tout le son ambiant est enlevé, et ça m'a fait pleurer. Et c'est un poème, ce film. C'est ça, extraordinaire. Je me souviens de mon état. J'ai été secouée en sortant de là. J'étais seule aussi, c'est ça, ça a commencé. La cinéphilie est venue, justement, quand j'ai commencé à aller au cinéma, par curiosité, en prenant des risques. Ma vie cinématographique, il y avait les films qu'on allait voir avec les amis le vendredi, puis qu'on savait que ça allait plaire à tout le monde oui. Est excité.
Films universels.
Oui, ou ben, ceux qui sont dans l'air du temps, puis qu'il faut avoir vu, parce qu'ils sont à la mode, etc. Et d'autres films. Je réponds longuement. Hein,
si... ben c'est bien, c'est
parce
bien.
Parce qu'on n'aura que 3 questions.
C'est la passion.
Et le dernier film, ben, c'est un film québécois, parce que... Je connaissais très peu la filmographie nationale. J'ai connu le néo-réalisme italien, puis la Nouvelle Vague, mais sans être cinéphile, comme je disais, avant de connaître le cinéma québécois, ce qui est fou. Mais ce qui dit aussi comment, à cette époque-là, nos films étaient très peu diffusés, même chez nous. Et j'ai vu un film, Un zoo la nuit, de Jean-Claude Lauzon. Le film m'a bouleversée de toutes sortes de façons aussi. Mais surtout, après... Quand j'ai commencé à lire sur le film, j'ai constaté, il déclarait qu'il avait étudié en cinéma à la même université où moi, je m'emmerdais comme un remords à étudier en administration. Ben, par désespoir, je ne veux pas exagérer, mais par résignation. J'étais résignée. À 16 ans, j'ai cessé de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, parce que j'étais tétanisée par l'idée qu'il fallait la gagner, cette vie. Alors moi, j'ai fait les choses à l'envers. J'ai été résignée très jeune. J'ai fait mes études universitaires. Mais après ça, j'ai eu un sursaut, parce qu'après avoir vu ces trois films-là, c'est pour ça que
je dis... Prise de conscience.
La cinéphagie, c'est-à-dire que j'étais une consommatrice, mais ensuite, la cinéphilie s'est installée parce que j'ai commencé à lire, à faire des liens, à aller voir...
À vous documenter.
Et puis dans le plaisir, mais oui. De dire, OK, Scorsese, ce film-là est extraordinaire, bon, ben je vais tous les voir. Et à l'époque, ben notre bibliothèque, c'est ça, les clubs vidéo. Et près de chez moi, on en avait un extraordinaire.
D'accord.
Et c'est comme ça que je suis tombée dans la passion cinéma, et j'ai plus jamais fait autre chose.
Alors, on va revenir à ce film. Donc, Clara et Sarah donc, sont deux sœurs. Elles vivent à la campagne, en fait, avec leurs parents, dans une communauté religieuse chrétienne. Et puis, à un moment donné, Sarah, donc la grande des deux sœurs, va s'échapper, va quitter cette communauté pour s'ouvrir au monde, hein, très, très clairement. Et sa jeune sœur, qui, comme on l'a dit précédemment, est vraiment son double. Elle partage tout, elles ont les mêmes émotions. Elle va essayer d'aller à sa rencontre, d'aller la chercher, pour essayer de la remettre un peu dans le droit chemin, si on peut considérer ces choses-là de cette manière-là. Et elle va atterrir chez sa tante, donc la sœur de sa mère, qui est l'antithèse de leurs propres parents, qui vit donc à Montréal, et qui pour le coup est une alcoolique... je pense qu'on, sans spoiler le film,
oui.
On s'en rend compte assez rapidement.
Oui.
On a quasiment les odeurs qui rentrent dans la salle, tellement il y a des bouteilles d'alcool partout. Mais pour le coup, elle a quand même une façon, on va dire, au départ, il y a un peu de retenue et d'étonnement de la part de cette tante. Et donc, Louise, qui est donc dans le film la sœur de la maman de Clara et Sarah, je vous avoue qu'en off, je vous ai même posé la question de savoir si vous aviez vous-même vécu une expérience dans une communauté sectaire ou un mouvement sectaire, parce que c'est tellement étayé, le propos est tellement fouillé, détaillé, que du coup, on pourrait croire que vous avez vécu de l'intérieur une expérience dans cet environnement.
Non, comme je vous ai dit, mais aussi pour moi, c'est important qu'on comprenne très rapidement les règles qui régissent cette communauté, puisque, comme vous disiez plus tôt, on la quitte assez rapidement. Le film est davantage un récit d'émancipation. Et quand la jeune sœur, la jeune Clara, part... Et donc, j'ai emprunté des codes qu'on connaît tous, ceux qui sont de tradition chrétienne. Et donc, la séparation des sexes, donc les femmes, leur hiérarchie, on la comprend très rapidement parce qu'elles sont toujours en arrière des hommes et habillées de la tête aux pieds.
Plutôt de couleur noire.
De couleur noire, voilà. On sent de sévérité, l'humilité. Alors, c'est ça. Oui. C'était important pour moi qu'on comprenne très rapidement les codes de vie de ce groupe.
Oui.
Je ne voulais pas pointer du doigt une communauté. Alors, j'ai inventé, supposons, plutôt que d'avoir les mains jointes, comme les chrétiennes, mon enfance.
Oui.
Là, tout à coup, c'est les mains ouvertes, ça fait un peu New Age, mais ils évoquent quand même Dieu sauveur, etc. Alors, j'ai pigé, je ne dirais pas à tous les râteliers. Dans mon esprit, ça rejoint quand même une communauté protestante, baptiste, mais je précise, bon, oui, c'est une dérive sectaire. Et donc, pour moi, c'est un point de départ pour qu'on comprenne très rapidement l'interdiction aussi de questionner le dogme. Et aussi, la jeune fille, oui, vous disiez, c'était très beau, un seul corps, deux têtes, mais le corps de l'aînée, elle est davantage... on la sent davantage révoltée.
Elle veut se révéler en tant que femme, très clairement.
Oui,
en fait,
tandis que la petite est davantage...
Qui est un peu plus jeune.
Elle est plus jeune.
Voilà.
Elle a 16 ans.
Oui.
Elle est davantage dévote. Davantage. Mais parce qu'elle, elle est parfaitement heureuse. Elle vit des transgressions, comme on peut voir, si c'est une adolescente. Mais elle n'a jamais été seule.
Pour prolonger l'histoire, donc, en fait, elle part à Montréal. Il y a une très jolie carte postale sur la ville de Montréal. On découvre cette ville de manière différente à travers ses parcs, l'architecture, etc. Et c'est vraiment... il y a une ode à cette ville qui est vraiment d'une bienveillance absolue. Et alors, elle va chez sa tante pour expliquer les choses en pensant trouver sa sœur, puisqu'elle découvre à la poubelle une photo qu'elle reconstitue. Et on s'arrêtera là au niveau des détails pour ne pas spoiler l'histoire. Elle découvre une photo qui, en réalité, correspond à une photo très ancienne où on voit donc cette tante devant chez elle. Et donc, elle essaye de se rapprocher de ce domicile. Elle y parvient. Elle y parvient en sachant que la ville, pour elle, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus nouveau. Et au-delà de ça, donc, elle découvre malheureusement que sa sœur n'est pas chez sa tante. Et finalement, l'histoire à part entière démarre à ce moment-là.
Ben, c'est l'histoire aussi, c'est la déconstruction des certitudes.
Voilà.
Alors, elle est convaincue que sa sœur ne peut être qu'à cet endroit, puisque, bon, etc. Et c'est ce personnage-là a appris à réprimer ses questions, à réfléchir, etc. Et le fait de c'est sa première surprise, c'est son premier échec, et non, sa sœur n'est pas là. Et ensuite, oui, c'est, la ville, pour elle, elle est inconnue, mais... C'est le lieu de tous les interdits.
C'est la ville et la vie en général qui lui est inconnue.
C'est le lieu des égarés, qui vont tous périr. C'est-à-dire, elle a des jugements très arrêtés, comme tous les gens qui se croient, qui croient détenir la vérité.
Comment on s'intéresse à une histoire comme celle-là? Parce que finalement, le mot que vous venez d'utiliser, la déconstruction, s'invite très fortement dans ce film. Et comment on déroule la pelote d'une telle histoire? Qu'est-ce qui germe en vous qui va faire que cette histoire va exister?
C'est la première fois que je n'ai pas initié, que je n'ai pas généré un de mes films. Et donc, Marika, le prétexte de l'histoire, ça lui est arrivé dans sa famille.
Ah.
C'est-à-dire qu'un cousin qui avait disparu est arrivé... qui avait disparu, ben pas disparu, mais qui avait quitté le monde séculier 20 ans auparavant.
D'accord.
20 ans plus tard, donc, une jeune fille est arrivée et est allée cogner chez quelqu'un de la famille en disant « Je suis X, fille d'Y, j'ai quitté mon groupe, je connais personne et mes parents ne me reconnaissent plus, etc. » Marika a été touchée par ça et a commencé à l'écrire pendant quelques années. Et ensuite, elle m'a approchée. Et au bout d'un an, elle m'a cédé l'histoire. C'est-à-dire, à ce moment-là, la sœur n'existait pas. Le poids de la tradition religieuse était quand même moins présente. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le sujet, ça ne fait pas un film. Bien souvent, quand je rencontre des jeunes scénaristes en mentorat ou en atelier... ils sont souvent à la recherche de l'idée choc, l'idée là, incontournable, l'idée qui va donc faire un beau film. Et je dis, ben oui, mais l'idée, elle est excellente. Si ça rejoint chez toi des questionnements, des zones, des blessures ou des obsessions, des désirs qui vont faire en sorte que tu vas toi-même devenir obsédé et puis t'es prêt à écrire et que ça te nourrit, si ça te nourrit, etc., la bonne histoire en soi, ça n'existe pas. Mmh. Et je leur dis des fois, la graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche, on pourrait le réduire, l'enjeu, est-ce qu'il va avoir assez de semoule pour faire le couscous? On dit, bon, je sais, c'est très réducteur.
Quand on se perfuse, entre guillemets, une histoire, en fait, il faut qu'elle vous habite de manière très forte.
Exactement. Et donc, je n'ai jamais été dans une secte, mais c'est pour ça que j'ai intégré la sœur au récit. C'est Lamartine qui disait « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Ben ça, on connaît tous ça.
Bien sûr.
Et ça a été ça, ma porte d'entrée dans ce projet-là, parce que comme scénariste, je me disais « Ça prend quand même un élément déclencheur pour que la jeune fille quitte, alors l'idée de la sœur, etc. » Bon, c'est assez classique hein, comme structure. Mais moi, ça a été ma porte d'entrée. Comme je dis souvent, mes récits ne sont pas autobiographiques, mais les préoccupations, les sentiments, les obsessions, les idées le sont.
Vous avez un certain talent pour faire des révélations, puisque lors de votre précédent film, votre deuxième film, Catimini, vous avez en fait révélé Émilie Brière. Et à cette occasion donc, de ce troisième film, vous nous faites découvrir Lou Thompson, qui incarne donc le rôle de Clara, qui est une très jolie rousse, une jeune fille rousse. Je pense qu'on reparlera assez régulièrement de cette jeune femme, parce qu'elle est vraiment très, très talentueuse. Sa sœur, sa grande sœur, donc, s'appelle dans la vraie vie Philomène Bilodeau. Et donc, Louise, la tante, qui occupe un rôle important aussi, s'appelle en réalité Edith Cochrane. Et je voulais aussi parler de quelque chose de très important, c'est la musique. Mmh. La musique dans le film, je la considère comme un escalier. Absolument. Et chaque marche qu'on franchit, ben, quelque part, c'est une émancipation à la vie de la part de Clara. Elle découvre, au fil de ses sonorités, une étape différente dans sa propre vie au sein de cette nouvelle vie qui est la ville de Montréal et la ville en général. C'est tout ça.
Ben, écrire un scénario, c'est une promesse. Hein? C'est une promesse qu'on se fait à soi, mais qu'on fait aux investisseurs aussi. Alors donc, en écrivant, la jeune fille est assise dans l'autobus et regarde par la fenêtre, puis on ne voit jamais qu'est-ce qu'elle voit par la fenêtre, mais on leur promet que ce sera fascinant, que ce sera émouvant, que ce ne sera pas un visage opaque qui regarde par la fenêtre. Mais moi-même, j'ai un doute hein, quand j'écris ça, parce que je dis ça, c'est dans le meilleur des mondes.
Oui, vous avez des convictions, mais
j'ai beaucoup d'espoir.
Oui, ouais.
Mais, et prête à chercher cette jeune fille jusqu'à ce que je la trouve. Mais bon, on a tous le fantasme... je sais pas, Maurice Pialat qui rencontre Sandrine Bonnaire, tu sais, tu dis, bon, ben, si ça pouvait m'arriver. C'était le deuxième jour du tournage quand on a fait la fameuse scène dans l'autobus. Et les gens autour de moi, première assistante à la réalisation qui s'occupe de l'horaire, dit, ah bon, on va y consacrer 2 heures, mais quand même, tu sais, parce qu'on a souvent vu... Souvent, on va voir un plan d'un personnage dans un autobus, ça sert à faire avancer l'histoire. Le personnage est parti du point A au point B. Tandis que moi, ce qui m'intéressait dans ce film, c'est aussi que ça soit extrêmement sensoriel, que nous-mêmes, on soit émus par ce que la jeune fille vit. Je passe du coq à l'âne. Combien de personnes m'ont dit, hey, tout à coup, j'ai envie d'aller faire une balade en vélo parce que... Ce qui est beau, c'est oui, j'ai pris le format de l'image 2.39, qui est traditionnellement le format d'image des westerns, mais en me disant, ça va être le visage de cette jeune fille. J'ai tourné le film aussi en pleine pandémie. On était masqués sur le tournage, masqués dans la vie de tous les jours, et j'ai réalisé, j'avais un appétit pour le visage. Parce que c'est ça.
Ça a décuplé votre intérêt pour tout ça.
Oui, et puis si vous avez la possibilité de voir le film, quand vous allez découvrir Lou Thompson, ça fait là, un an que je me promène avec le film. Je suis allée en Californie, je suis allée un peu partout et tout le monde est bouleversé.
Sous le charme, évidemment, bien sûr.
Parce qu'elle a une expressivité, une intelligence.
Une présence,
puis on comprend. Beaucoup de personnes me disent, mais c'est fou parce que... Elle traverse, disons, en 20 secondes, 3 émotions qui, des fois, sont contradictoires, puis on la suit complètement. Alors, c'est ça.
Alors, racontez-nous ce fameux casting, parce que, l'air de rien, trouver la perle rare, quand vous savez, entre guillemets, quand vous avez idéalisé un peu ce personnage dans votre tête...
Bien sûr.
La difficulté, c'est que la barre est haute, et donc, c'est un peu compliqué. Racontez-nous, ça, c'est vraiment intéressant de nous faire partager ça.
Aussi, j'avais aucun a priori physique... juste trouver la jeune fille à la fois imaginative, créative, parce que c'est un rôle de composition. Clara, c'est pas une adolescente typique. Mm-hmm. Donc, quelqu'un d'imaginatif, de sensible, d'incandescent, que la caméra aime, et aussi qui est là pour les bonnes raisons. Parce que des jeunes, filles ou garçons, qui sont inscrits dans des agences de comédiens, il y en a à profusion au Québec. C'est pour ça que j'en ai rencontré au moins 200. Mais quelles sont les motivations quand on a 14, 15 ans? Est-ce que c'est parce qu'on veut travailler un texte? Alors c'est souvent superficiel. Ils veulent être connus, être comédiens, c'est ça. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est du travail. Mm-hmm. En audition, j'étais à la recherche, ben c'est ça, de la perle rare, mais c'était pas évident.
Oui, parce qu'en fait, vous attendiez finalement une adolescente, mais qui fasse preuve d'une maturité supérieure à son âge, quelque part.
Oui, et puis qui a un désir pour ce travail, et non pas juste le désir de la finalité, puis on va être sur les tapis rouges, puis ça va être bien.
Pour raconter à ses amis.
Oui, mais c'est bien ça, je peux comprendre que c'est un moteur aussi. Et puis des fois, il y en a qui ont des très bonnes intentions, mais c'est intimidant aussi d'être devant une caméra. Il faut avoir un plaisir aussi d'incarner un personnage. Et donc, je ne vais pas tout vous raconter parce que ça peut être très long, mais c'est comme un film hollywoodien. C'est-à-dire que, puisqu'on était en pandémie, je rencontrais les candidates en rencontre virtuelle Zoom, et ça a duré pendant 3 mois, à peu près 2 mois et demi. J'en rencontrais 20 par fin de semaine parce que je ne vais pas faire rater les classes pour une audition. Pour le tournage, c'est autre chose, mais pour une audition, ça n'a pas de sens. Et je leur faisais faire 2 scènes, une avec dialogue et une autre qui était silencieuse. Et on pourrait croire que si la scène avec dialogue peut être plus difficile, non, elles s'en tiraient toutes à peu près très bien parce qu'elles peuvent s'accrocher à leur ligne et elles ont des coachs, etc. Mais c'est la scène silencieuse, c'est-à-dire la première fois où le personnage qui se retrouve face à un miroir puis qui est seul et qui s'accorde le droit de se regarder, parce que dans sa communauté, il n'y a pas de miroir, et aussi se regarder dans le miroir, c'est un acte de vanité, c'est de l'orgueil, c'est... Et donc, pour la première fois où elle est face à un miroir, puis elle lui fait dos, puis elle résiste un peu, puis on... sent dans sa tête qu'elle doit commencer à négocier avec elle-même pour en dire « oui, c'est un péché, mais rendu là, j'en ai quelques-uns, Dieu me pardonnera ou pas ». Bref, elle finit par se regarder et se voir à peu près pour la première fois et s'observer, non pas comme une jeune fille qui va dire « ah, mais suis-je jolie », etc. C'est dire « ok, ça c'est moi ». Et alors, c'était la scène d'audition. Et c'était pas facile. Plusieurs aussi étaient très timides et s'en débarrassaient en 12 secondes. Moi, mon travail, les auditions sont assez longues quand même pour que... Ce que j'essaie de vérifier quand j'aborde quelqu'un d'aussi jeune et donc qui n'a pas d'expérience, c'est est-ce qu'il y a un plaisir à créer? Est-ce qu'il peut avoir... parce qu'on pense, est-ce qu'on va arriver à surmonter la timidité au bout de 20 minutes? Est-ce que je vois une petite progression, une ouverture? Est-ce que je vois du plaisir? Et donc, à chaque fin de semaine, j'en rencontrais 20 et je me disais, oh, ça va être difficile. Et donc, au bout de 2 mois et demi, la dernière journée qui était prévue, et non pas parce que là, je me disais, bon, ça suffit, basta, je suis tannée, je suis fatiguée. Non, c'est parce que j'avais vu tout le monde. À 11h30, Lou Thompson est arrivée. Bon, belle, ce teint diaphane, etc. Mais c'était pas ça, a priori. C'était le talent, c'était la présence, c'était le désir aussi. Et...
le rayonnement, ce rayonnement.
De prendre le temps. Alors, elle a fait cette scène-là, parce que j'en étais rendue à me dire, mais quel cliché aussi. On a tous vu ça, là, le personnage dans le film qui tout à coup se regarde, son moment d'introspection, il se regarde dans le miroir. Fait que je disais, c'est banal, c'est tout, puis c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. J'avais présélectionné 14 jeunes filles où je voyais un potentiel, mais je n'avais pas eu encore de grand coup de cœur. Et quand Lou est arrivée, là, tout à coup, j'ai vu le personnage pour la première fois et j'avais pas grand-chose à faire. Ensuite, on a joué ensemble, on a pu explorer des choses. Et là, je voyais que donc, c'était pas cristallisé aussi. Elle avait préparé quelque chose, mais elle avait l'ouverture. Je pouvais proposer autre chose, elle se l'appropriait, elle réinventait. Tout de suite, je savais...
L'océan s'est ouvert en deux.
Oui. Là, tout à coup, après, parce que c'est un film sur le doute, l'éloge du doute. Mm-hmm. Le doute, c'est très inconfortable. Hein? On préfère choisir A ou B, peu importe. Mais c'est bien, le doute aussi, c'est fertile.
Oui.
Mais ça suscite l'angoisse. Mais en rencontrant Lou Thompson, là, tout à coup, mes doutes à ce propos-là se sont complètement estompés. Je me suis dit, ce film... pourrait exister.
Ça allumait une lumière, clairement, en vous, quoi.
Ah, là, je savais que j'allais...
Vous saviez, voilà.
Ouais. Parce que j'allais être capable de défendre à des gens, non, mais attendez, ça va être Lou Thompson. Ouais. Alors, tout à coup, de la voir à vélo, oui, le cadre de l'image, oui, la ville de Montréal, puis oui, c'est beau, c'est drôle, etc., mais ce qui va être formidable, c'est de voir, on va participer à l'émancipation, on voit l'éveil de quelqu'un, puis c'est pas démonstratif ou surjoué, ou etc. Il y a un homme, ça arrive souvent, les gens me disent, mais j'ai pleuré quand elle se regarde dans le miroir. C'est beau, ça, quand
bien
même.
Bien sûr, bien sûr.
C'est beau.
Bien sûr. C'est une scène, effectivement, très émouvante. Alors, on arrive au terme de cette émission, justement, et il y a une petite tradition à la radio du cinéma. Je vais vous demander, en fait, votre film préféré, votre musique de film préféré et votre réplique de film préféré.
Un film préféré, ça n'existe pas parce que c'est... Mais parce que j'en ai un foisonnement.
Bien
mais...
sûr.
Et ça dépend de la journée, le... L'envie, le
la
film
lumière,
de dos,
le contexte,
lumière, le contexte,
les gens avec qui on est.
Envie de rire, envie de pleurer,
tout
etc. Mais j'ai évoqué le western tantôt, et je vais dire comme le bon, la brute et le truand, mais tout l'univers de Sergio Leone. Mm-hmm. Et moi, j'ai toujours été émerveillée par le fait, c'est-à-dire la première fois que j'ai vu le bon, la brute et le truand, et tout Sergio Leone, j'étais enfant. Mais j'ai eu un plaisir, une jubilation, etc. Ensuite, j'ai compris aussi qu'un Italien s'approprie un genre fondateur, les mythes fondateurs des États-Unis, et qu'il les détourne comme ça. Et fait que c'est ça, j'ai comme une grande admiration. Quelqu'un me posera la question cet après-midi, je répondrai
ça sera
autre
pas
chose.
Le même film.
Mais là, je dirais tout l'œuvre de Sergio Leone.
Bon, en termes de musique.
La musique d'Hiroshima, mon amour. Georges Delerue, parce que j'ai qu'à entendre cette musique-là pour ensuite être dans un spleen qui dure deux jours.
Ah,
c'est-à-dire, ça me replonge dans le film. C'est un pouvoir évocateur si grand. Puis Delerue aussi, c'est tout. Ben, Le Mépris, etc. Des grandes, grandes musiques qui ont été fondamentales aussi pour moi. Des grandes découvertes au début de mon histoire d'amour avec le cinéma.
Très intéressant. Et donc, votre réplique préférée?
C'est comme il y a un film pour enfants,
ouais.
Puis ça dit « La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. » Et donc, c'est « La guerre des tuques », un film qui raconte ces deux bandes d'enfants au Québec. Donc, deux bandes d'enfants, une journée de tempête, congé, scolaires, et ils construisent des forts de neige, c'est-à-dire des immenses châteaux forts.
Ouais.
C'est,
avec de la neige.
Ah oui, c'est 2 mètres de haut, et ils font la guerre.
D'accord.
Et ça commence gentiment, mais ça vire
au
drame.
Ah oui.
La guerre, pas une raison de s'en faire mal!
Cette réplique, en tout cas,
mais oui, la
vous
guerre,
l'avez en tête.
C'est pas une raison pour se faire mal.
Ouais.